Un jour de 85, alors que j'étais bénévole à Emmaüs de la Défense, Emmaüs de Bougival nous avait tous invités et j'ai vu l'abbé Pierre. Nous avons parlé presque une heure. Pour la première fois, quelqu'un m'écoutait attentivement. Ces quelques minutes avec lui, délicieuses. Et à la fin, il m'a dit, tant que Pinochet sera vivant, je ne quitterai pas ce monde. Voilà. Je l'aime bien. Ninoche Cabretagne.
6h45 lundi matin, dans ma voiture sur l'autoroute, la radio annonce la mort de l'abbé Pierre. Aussitôt le vertige, le défilé des onctueux, la sarabande des pleureuses médiatiques, le sirop gluant des puissants compatissants. D'abord Kouchner sur Europe 1, puis dans la foulée le même, déboulant sur France Inter avec son demeurant larmoyant entre deux pubs. La suite n'est qu'un mauvais film. Mon esprit perd le sens de la chronologie. Tous, ils y pensent tous. Chirac, De Villepin, Alliot-Marie, Sarkozy, Royal, Borloo, Giscard, et jusqu'à Jean-Marc Sylvestre, triste chante de ce monde de nantis dégoulinant qu'exécrait précisément notre abbé. Le lendemain, j'apprends que le chef de l'État, bouleversé, lui prépare des funérailles nationales à Notre-Dame de Paris. Vont tous débarquer dans la nef, l'air effondré de circonstances sous les caméras et les sunlights. Prendront comme d'habitude les premières places sur des chaises tapissées de velours rouge, essuieront peut-être une larme pour TF1 ou Paris Match. Cours des miracles en perlousé, des grimaciers et des côtelés repus. Non, vraiment, il n'y a pas qu'Emmaüs pour ce qui est de la récup, j'en ai le ventre qui se retourne. Dans l'après-midi du même lundi, José Arthur est intervenu dans l'émission de Daniel Mermet, pour appeler tous les sans-grades, les déclassés, les campeurs du bitume à réclamer la place qui leur est due dans l'hommage à notre insurgé du bonheur. Allez planter vos tentes devant le Val-de-Grâce où il est mort, les a-t-il enjoint. Eh bien, je relais avec force cet appel. Allez-y les crottés, les misérables. Envahissez l'île de la Cité vendredi 26 janvier. Dressez vos toiles aux portes de la cathédrale. Franchissez le parvis. Engouffrez-vous dans les travées. Chrétiens ou franchement athées, emparez-vous de votre abbé. Et en passant, bottez le cul à tous ces tartuffes hypocrites.
Voilà, aujourd'hui, je suis en deuil. On vient de perdre un ami, un grand ami, un ami qui nous soutenait dans la lutte. Voilà, c'est dur, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'espère que là où il est, ben, j'espère qu'il est mieux qu'ici, quoi. Voilà, bye.
Honte à France Inter d'avoir osé entrecouper les témoignages sur l'abbé Pierre de publicité bancaire.
Moi, l'abbé Pierre, il a fait beaucoup de choses et on ne reviendra pas dessus. Mais pour moi, l'abbé Pierre, c'est celui aussi et surtout qui a très, très vigoureusement soutenu Roger Garaudy dans ses écrits antisémites. Et bah, ce vieux cato a réagi comme les vieux cato, quoi. Donc faudrait peut-être pas l'oublier non plus. Et puis après tout, l'abbé Pierre est mort, mais Sarko est toujours vivant et pour longtemps. Donc choisis ton camp, camarade. Salut.
Comment peut-on décemment passer une demi-heure au journal télévisé à louer la bonté et l'envergure de l'abbé Pierre, c'est-à-dire prôner la solidarité et la justice tout en pratiquant la logique du cerveau disponible dans la minute qui suit ce même journal avec des messages publicitaires tels que « Ne laissez personne partir à votre place », sous-entendu en vacances. L'abbé Pierre n'aurait-il pas dit « Laissez, surtout laissez quelqu'un partir à votre place ». Cela signifie que pendant 30 minutes, on se sent humaniste et généreux. Et puis soudain, voici l'étendard du libéralisme outrancier qui reprend ses droits et réveille si facilement l'individualiste qui est en nous et nous dit « Consomme encore et encore, roule plus vite que ton voisin et si possible, écrase-le ». Puisse la douleur de la disparition de l'abbé Pierre retentir longtemps en de vrais élans de générosité et d'humanité. C'était Sarah de Belfort. Salut Daniel.
Bonjour, je suis Madame Ecoyard, présidente d'une association de solidarité avec les familles roumaines qui se trouvent à Palaiseau. Ici, deux bidonvilles de Rome et une autre de Roumaine. Et aujourd'hui, mardi 23, nous assistons là avec quelques militants à l'expulsion de ces personnes de leur baraquement. C'est vraiment une image désolante de voir ces personnes sans aucune solution que leur est proposée par les autorités, ni par la mairie, ni par la préfecture. Ces personnes, aujourd'hui qui fait un froid terrible, nous voyons ces personnes avec ces baluchons, partir dans une errance qui ne savait pas où aller. Les femmes pleurent, les hommes ils sont abasourdis, et nous, témoins de ces drames, nous sommes écœurés que dans notre pays, il puisse se passer de telles choses pour une population que tout le monde exclut, et pour laquelle nous pouvons, même si on se démène, nous ne pouvons aucune réponse à leurs problèmes. Voilà. S'il vous plaît, faites l'information, parce que ce fait-là, il nous déshonore. Vraiment, merci.
Bonjour, il n'y en a que pour l'abbé Pierre aujourd'hui, et rien sur Sarkozy, c'est une honte. Télé de merde!
Mais non, la mort de l'abbé Pierre ne va pas nous empêcher de faire entendre le message de Nicolas Sarkozy, ami auditrice, soyez sans inquiétude. Nous allons consacrer cette heure à ce jeune candidat à la présidence de la République, avec deux auteurs. L'un, c'est Jean-Luc Porquet, et qui est journaliste au Canard Enchaîné, et qui sort ces jours-ci un bouquin qui s'appelle Le Petit Démagogue, et qui, Le Petit Démagogue, d'après, si j'ai bien tout compris, le livre ressemblerait peut-être à celui dont nous venons de parler. Et puis un autre auteur aussi, Philippe Cohen, qui est le co-auteur d'une bande dessinée qui marche formidablement bien, qui s'appelle La Face Cachée de Sarkozy. Et nos deux invités vont parler de celui que cette auditrice craignait de ne pas entendre aujourd'hui. Merci en tout cas pour les messages très très nombreux qui nous parviennent, évidemment sur l'abbé Pierre, sur ce message notamment de ces Roms qui ont été expulsés de Palaiseau. Les images se télescopent et se rapprochent les unes des autres. On attend effectivement si le moment où Nicolas Sarkozy, le maire de Neuilly, quand même l'ex-maire de Neuilly, va dire des choses sans doute très très bouleversantes sur le curé des pauvres. Auparavant, avant de retrouver nos deux invités et leur sujet, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Jean-Claude Balouet de l'Isère. Tout d'abord, merci pour votre émission. Mais j'appelle, c'est pour un coup de gueule. Tous ces maires, notamment des banlieues riches et chics, comme à Neuilly, qui n'ont pratiquement pas de logements sociaux, au mépris de la loi qui impose 20%, tous ces maires, s'ils osent venir verser des larmes de crocodile sur la dépouille de l'abbé Pierre, devraient être chassés à côté dans le cul. Excusez-moi, mais c'est ce qu'ils méritent. Encore merci pour votre émission. Tenez bon, on est derrière vous.
C'est Isabelle, des enfants de Don Quichotte sur Toulouse. Donc, toujours pour t'informer qu'on est toujours mobilisés malgré le froid qui arrive. Par contre, point de plan Marshall chez nous, la DAS continue ses provocations. Elle refuse d'accueillir des personnes à la rue dans les réunions de travail. Alors, j'espère que quand même la mort de l'abbé Pierre, la veille du retour du froid, va faire bouger les choses chez nous. Ce serait quand même le plus grand hommage qu'on pourrait lui faire. Et puis, peut-être, Monsieur Mermet, en espérant vous voir sur le campement. À bientôt pour plus d'infos. Au revoir.
Lutter pour l'aide au logement des plus démunis devrait se faire sans combat. S'il y a combat, c'est qu'il y a un ennemi, quelqu'un qui s'oppose à cette cause ou qui est complètement indifférent. Il s'agit là de dirigeants politiques. Et quand je les entends parler de tous les honneurs qui seront faits à l'abbé Pierre maintenant qu'il est mort, je trouve ça honteux de leur part. Je pense souvent que pour certains, ceux qui ont un peu plus de chance que les autres, ceux qui sont un peu plus individualistes aussi, aimer, aider son prochain devrait être un devoir. Pour les autres, ceux qui sont humains, cela reste une liberté. Je trouve que la nouvelle année ne démarre pas très bien. Au revoir, c'était Babette.
Nous informons la population que pendant la période de deuil qui fait suite au décès de l'abbé Pierre, la kermesse électorale continue. Nous en profitons pour informer également nos annonceurs que pendant cette période, la publicité aussi continue et même que nos tarifs seront exceptionnellement doublés. Vive la misère et vive l'abbé Pierre.
Ah oui, là je rentre du boulot, je viens d'apprendre la mort de l'abbé Pierre. Et il est 18h, c'est des infos, voilà. Eh ben voilà, on vient de perdre le premier et dernier ministre du logement que la France ait pu avoir. Là, c'est quand même quelque chose, quoi. Quand je pense que ce mec hurle contre la misère depuis 1954, la misère humaine, la misère morale, la misère tout court, la misère qui rend méchant aussi, Et voilà, il est mort. Et en même temps, il nous restait un révolutionnaire en France, et ben voilà, on n'en a plus maintenant, hein, parce que lui était un révolutionnaire, et puis il y a ceux qui causent de révolution tous les jours, mais qui se limitent à la causerie, quoi. Donc, ouais. Enfin bref, moi qui suis ni Dieu ni maître, ça me touche quand même, même si c'était un curé, j'ai jamais fait gaffe. En fait, ça me venait jamais à l'esprit que c'était un curé, ce mec-là. Il avait réussi à me faire oublier ça. C'était plutôt... ouais, me fait plutôt penser à Gandhi, Luther King, des mecs comme ça, quoi, qui ont fait don de leur personne, mais pour une cause, une vraie cause, quoi. Voilà. Et, enfin, bref.
Coucou, c'est Gilles. Alors, c'est prouvé, nous sommes bons, généreux et charitables, mais par procuration.
Bonne année à tous les Français. Je dis bien, virgule, à tous les Français. Point. À tous les Français, virgule, sauf à, deux points, Luc Besson, Jamel Debbouze, Lilian Thuram, Joe Starr, Jean-Pierre Bacri, Azouz Begag, Dominique de Villepin, Jacques Chirac, Tommy Boxy, les gens d'Actop, les racailles, les gauchistes. Voilà. Excepté eux, virgule, je souhaite une bonne année 2007 à tous ceux qui voteront pour moi en 2007. Point final.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Jean-Luc Porquet et Philippe Cohen, aller contre moi, c'est aller contre l'opinion
J'espère
publique.
J'espère pouvoir donner ma version des faits, tout de même. Flight number two. Arriving.
Chers amis, je vous demande de faire un accueil chaleureux à Nicolas Sarkozy, votre président de l'UMP.
Vous avez quand même quelque chose en commun, tous les deux.
Mes chers amis,
Jean-Luc Porquet et Philippe Cohen, c'est que vous vous vantez de ne jamais avoir rencontré Nicolas Sarkozy. Alors, il y a beaucoup de Français qui ne l'ont pas encore rencontré, qui n'ont pas encore eu ce plaisir, mais pour des journalistes, c'est quand même assez rare.
Mes chers amis, vous êtes deux seuls, non, sur la place de Paris, ou presque.
À vous voir si nombreux.
Enfin, moi, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est parce que c'est lui qui n'a pas voulu. Hein. Moi, je voulais bien. Je considérais qu'au bout de mon enquête sur lui, c'était normal de lui poser un certain nombre de questions, parce que ça fait partie de ce que j'estime être la déontologie du métier. Bon, c'est lui qui n'a pas voulu. Donc, ça, franchement, ça m'a facilité la tâche. Mais voilà.
En tous les cas, il vous nourrit, hein, tous les deux. Hein. Il vous nourrit surtout, Philippe Cohen, la face cachée de Sarkozy. On a vu le livre partout. Il faut rappeler, pour ceux qui seraient vraiment très très éloignés de l'Hexagone, que c'est un album de bande dessinée avec une scénarisation de Richard Malka, des dessins de Rice et une documentation de Philippe Cohen. Je rappelle que vous êtes journaliste à Marianne et vous avez commencé par une véritable enquête journalistique, ce qui est assez rare quand même, hein, dans la bande dessinée. Alors, vous êtes là pour ça. Et puis Jean-Luc Porquet, lui, ça vient juste de sortir aux éditions de la Découverte, Le Petit Démagogue. Et Le Petit Démagogue, on voit tout de suite qui c'est, il n'y a pas tellement à se gourer, c'est un dessin de Cabu. Il est assez diabolique, hein, le Sarkozy de Cabu.
Camus me racontait qu'un jour, il croise Sarkozy à l'Assemblée nationale, et Sarkozy dit « Mais pourquoi vous me dessinez toujours avec ces petites pointes dans les cheveux ?» Et Cabu dit « Mais c'est parce que vous avez quelque chose de diabolique. » Et Sarkozy a tourné les talons.
Les talons, ouais, talonnettes.
Les talonnettes, voilà.
Et donc voilà, le petit Sarkozy est à l'école et regarde des grandes figures de la démagogie. On reconnaît tout de suite Le Pen, on reconnaît tout de suite Berlusconi, etc.
Je souhaite que vous vous leviez pour que l'immense armée des adhérents de l'Union pour un mouvement populaire vous salue, vous remercie et vous applaudisse. J'irai dans les usines, j'irai dans les campagnes, j'irai dans les universités, je rencontrerai tout ce que vos territoires, comme d'hommes et de femmes, prêts à dialoguer.
On peut commencer peut-être avec le bouquin de Jean-Luc Porquet. Là, vous attachez à découper la stratégie et le personnage Sarkozy à travers la démagogie. C'est en 9 leçons. C'est pas très compliqué. Oui, c'est 9 leçons pour devenir un parfait démagogue.
C'est un manuel, mais il les connaît par cœur, les leçons. Hein. En gros, j'isole 9 trucs, 9 recettes qui sont utilisées depuis le tout premier démagogue qui était Cléon il y a 25 siècles, déjà, et qui ont servi après, qui servent, qui sont chaque fois un peu renouvelés, relookés, mais qui sont toujours les mêmes.
Alors, les démagogues auxquels vous comparez le candidat à la présidence de la République, vous le comparez à Poujade, vous le comparez à Berlusconi, vous le comparez à Huel Long, à Milosevic, à Cléon, dont vous venez de parler, à Savonarole, au général Boulanger, à Eva Perron, et puis à Le Pen.
Moi, j'ai fait ce bouquin parce que j'avais fait un peu le même exercice il y a 15 ans sur Le Pen, qui me paraissait à l'époque être le grand démagogue. Et à force de voir Sarkozy s'agiter surtout depuis 2002 quand même, je me suis dit, tiens, c'est quand même un air de déjà-vu, des postures déjà-vues, des trucs déjà-vus, des ficelles, des voilà. Et donc, je me suis aperçu que Sarkozy était en train d'endosser à son tour l'habit du démagogue. Le démagogue, c'est celui qui flatte les passions populaires, qui fait semblant de les épouser, là c'était notamment sur la sécurité, pour mieux manipuler, pour mieux tromper.
Je ne vois pas pourquoi le principe de la tolérance zéro, appliqué avec succès dans d'autres grandes démocraties de la nôtre, serait parfaitement adapté aux délinquants anglo-saxons et tout à fait inadaptable aux délinquants latins. Cela, il faudra me l'expliquer. C'est une question très simple de volonté politique. Nous devons agir au premier délit, tout simplement parce que c'est plus facile, sur la route de la délinquance vers des délits et des crimes de plus en plus graves, d'agir tout de suite que d'agir trop tard. Il faudra intervenir au premier carreau cassé, parce qu'après, c'est trop tard. Et c'est l'objectif qui compte, et les moyens suivront ensuite.
D'accord avec ça, Philippe Cohen, Sarkozy, le grand démagogue?
Oui, moi je l'appellerais plutôt populiste, parce que je trouve que ça correspond à sa manière de s'opposer finalement au reste des hommes politiques. C'est-à-dire comme, ça veut peut-être dire au fond la même chose, hein, mais c'est comme il est l'incarnation finalement de la demande du peuple. C'est ça, je trouve le populisme. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a quand même une élite politique qui, depuis 10 ans, Alain Duhamel, Alain Minc, nous met en garde sans arrêt contre le populisme, les dangers du populisme qui menacent l'Europe entière, etc. Ils ont à domicile, à la maison, le plus formidable populiste qu'ait connu la France depuis longtemps. Et on les voit tous se rallier peu à peu à Sarkozy, comme à la Minc, bon, par exemple. Et ça, je trouve, c'est quand même... Moi, j'aime bien le mot de populiste, parce que...
Vous n'êtes pas très loin, la définition de Porquet donne,
c'est vrai qu'il prétend parler peuple, il prétend parler comme les gens, hein, l'histoire de la racaille, du Kärcher, c'est je parle comme le... Je viens pas de Neuilly, en fait, je parle comme la France profonde. Hein.
On va vous se débarrasser de ces gens-là, vous inquiétez pas. Hein? Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein.
Je n'accepte pas votre discours. Et ne comptez sur aucune... Mais ça m'étonne. Je vais vous dire une chose.
Arrêtez une seconde.
Je vais vous dire une chose. On n'est pas dans la rue, ici. On est entre gens bien élevés.
Normalement, je ne sais pas comment vous voyez, là.
Si c'est comme ça que vous parlez normalement, ça laisse bien augurer de ce que ça doit être dans votre quartier.
Comment en est-il arrivé là? Philippe.
Moi, je crois que les temps médiatiques sont des temps amnésiques pour moi. Hein. Et donc, ce qui me paraissait très important dans ce livre, c'est de raconter Sarkozy avant 2002. Parce que pour beaucoup de gens, et notamment pour beaucoup de jeunes, Nicolas Sarkozy est apparu en 2002. Mmh. Or, en réalité, c'est simplement en 2002 qu'il s'est mis à son compte. Donc, avant d'être à son compte, il a eu des boss, il a eu des patrons, il a travaillé pour eux. En général, il s'est trahi. Et donc, tout ça, il fallait le raconter pour voir comment il en était arrivé à 2002. Alors, comment il est arrivé? Je crois qu'il est arrivé en les tuant un à un, quoi. Au sein de la droite, Nicolas Sarkozy est véritablement ce qu'on peut appeler un tueur.
Quand j'entends dire qu'il y aurait un débat de société entre Chirac et Balladur, ben il était temps de se rendre compte, alors que nous habitons depuis 20 ans dans la même famille politique, qu'on était d'accord sur rien. Le véritable choix, c'est entre le socialisme et nous, et entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. C'est un problème de personne, au bon sens du terme, et de méthode.
Quelles sont ses stratégies particulières? Qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport aux autres? Parce qu'après tout, un homme politique, il est là pour convaincre, il est là pour exprimer, il est là pour se faire aimer et représenter éventuellement les aspirations populaires.
Le premier truc du démagogue, c'est que c'est un formidable battleur. C'est un baratineur, c'est un as du verbe.
Vous dites que le français moyen emploie 3000 mots. Et Sarkozy, 1500.
1500, oui. Et il y a 1 million de mots dans la langue française, mais bon, ouais. Sarkozy se limite à 1500.
Donc, il a un langage simple, clair et direct.
Tout ça est calculé, hein. C'est pas spontané. Tout ça est étudié et calculé.
Et ça vous semble une stratégie démagogique?
Oui, c'est un des éléments. C'est simplifié à mort. On peut simplifier plus ou moins, on peut être plus ou moins démagogue, mais il y a celui qui simplifie les problématiques à mort, et Sarkozy fait ça. Mmh.
Philippe?
C'est sans doute une stratégie, mais je pense que ça correspond aussi à ce qu'il est. Moi, ce qui me paraît nouveau dans Sarkozy par rapport à tout ce qu'on a connu comme homme politique, c'est que ce n'est pas un lecteur. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand vous interrogez Sarkozy sur les livres, il vous cite toujours les mêmes.
Oui.
C'est toujours les mêmes, hein. C'est Voyage au bout de la nuit de Céline, hein. Le livre de ma mère d'Albert Cohen et un troisième.
Belle du Seigneur.
Belle du Seigneur, oui. Et un troisième que j'ai oublié. Mais en réalité, c'est des livres qu'il a lus, on le raconte dans la BD, au moment où il est au plus bas, c'est-à-dire en 99, il a fait une grosse défaite politique, et on voit dans la BD, si vous voulez, Cécilia qui est très inquiète et qui répond à une copine au téléphone, ça va très mal, il lit des livres. Et effectivement, c'est pas simplement une blague, je pense qu'on a eu, en général, jusqu'à présent, des hommes politiques qui étaient des gens cultivés, qui étaient des grands lecteurs, et Sarkozy, pour moi, est l'un des premiers qui est pas cultivé. Donc ça lui est très facile, les 1500 mots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est naturel. Il n'a pas besoin de se forcer.
C'est vrai que là par exemple, il a cité Jaurès récemment dans son grand discours, et on sent bien qu'il a jamais lu Jaurès, quoi. Mais il a quand même
Mais il a écrit des livres, vous êtes méchant.
J'ai écrit le discours qu'il a fait, il est du fond du cœur, ce discours. Il est magnifique, le discours qu'il a fait dimanche, hein. Mais c'est du fond du cœur d'Henri Guénaud qu'il a écrit. Oui, ça n'a rien à voir avec Sarkozy.
Français, prompt à détester votre pays et son histoire. Écoutez la grande voix de Jaurès. Ce qu'il faut, ce n'est pas juger toujours, juger tout le temps. C'est se demander d'époque en époque, de génération en génération, de quels moyens de vie disposaient les hommes, à quelles difficultés ils étaient en proie, quel était le péril ou la pesanteur de leurs tâches, et rendre justice à chacun sous le fardeau. Pourquoi ? Pourquoi la gauche n'entend-elle plus la voix de Jaurès ?
Il y a le bagou, hein, d'accord, la technique de Sarkozy, c'est le bagou, peu de mots, mais efficace. Parce que c'est efficace, c'est repris, ça marche, non? Quand il intervient, ou bien est-ce que c'est qu'il arrive à séduire les médias?
Non, puis il y a des trucs de rhétorique, le truc que les guignols avaient isolé, genre, eh bien pourquoi? Mais je vais vous le dire. C'est-à-dire, il explique lui-même, il dit, moi, vous savez, au début, je faisais questions-réponses avec la salle. Et maintenant, j'ai compris qu'il valait mieux que je pose moi-même les questions et que j'y réponde. Et comme ça donne l'impression aux gens qu'on a discuté. Et donc, il passe son temps à faire ça, à poser des questions. des questions dont généralement la réponse est évidente, c'est, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on aille tous les matins à l'école la peur au ventre? Question fermée, parce que la réponse est forcément non. Et donc, une fois qu'on est d'accord avec lui sur la réponse, c'est pour mieux nous vendre le fait qu'il faudrait mettre des flics dans toutes les écoles.
Quand vous avez en face de vous 50 individus cagoulés avec des cocktails Molotov, est-ce que vous pensez que je dois essayer de comprendre? Prenons un exemple concret. Voler le sac d'une vieille dame en lui cassant le bras parce qu'on l'arrache à moto, c'est pas tout à fait la même chose que le voler parce que subrepticement on le prend sur un banc.
Mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour ramener l'ordre et pour offrir aux Français la tranquillité dont ils ont besoin?
Donc il y a quand même des tas de petits trucs comme ça que les autres n'utilisent pas ou utilisent rarement, utilisent à moins d'échelle. Et lui, c'est un spécialiste. Il a travaillé ça avec des médiatraîneurs, des gens de la com. Ça fait 30 ans qu'il travaille ça et qu'il a maintenant une équipe de com derrière lui. C'est un métier, quoi.
Oui. Alors là, vous le comparez à Poujade. Vous faites un portrait de Poujade parce que sur chacun de vos chapitres, Jean-Luc Porquet, vous comparez un aspect de la démagogie de Sarkozy avec un personnage illustre dans le passé.
Voilà, comment lui prend un truc et comment un démagogue avant lui a repris.
J'avais oublié qu'effectivement l'Express avait surnommé Poujade Poujadolphe. Poujadolphe.
C'est un peu excessif. Quoi.
Oui, un peu trop.
C'est un peu excessif d'ailleurs. Vous faites attention chacun dans vos bouquins. Vous évitez tous les deux le tous pourri.
Non seulement le tous pourri, mais aussi le côté, moi j'irais le côté sarco-facho, me convient, ou raciste, me convient pas, parce que c'est pas, je pense que ça correspond pas, si vous voulez, à la réalité du bonhomme, et que d'une certaine manière, c'est contre-productif, et ça le sert quand on profère de telles attaques. Je veux dire, toute l'habileté de Sarko repose aussi, pour revenir à la discussion que vous aviez un instant, pourquoi ça marche, c'est aussi, parce que quand il pose ses questions, quand il a ses formules rhétoriques, c'est aussi parce que en face, il y a que des gens qui lui laissent dérouler le tapis. Quand il pose la question, il y a personne qui lui dit mais écoutez, moi c'est moi le journaliste, c'est moi qui pose la question, c'est pas vous. Donc personne, si vous voulez, n'est là pour le déstabiliser ou pour essayer de le cuisiner un peu. C'est pour ça aussi que ça marche formidablement bien.
Oui, mais hein,
je veux dire, ça c'est le dispositif qu'il a mis en place de communication qui fait que tout marche très bien pour lui. Il y a alors que des fois, c'est très très gros quand même. Oui.
On va reparler de la com plus loin, mais là, on peut parler des médias tout de suite, parce qu'effectivement, ce que vous racontez, Philippe Cohen, dans votre bouquin, c'est le temps qu'il a mis à séduire et à maîtriser complètement les médias. Et là, je vois, j'ai un dessin de Riis inspiré du Sacre de Napoléon, où on voit les grands patrons des médias, je parle pas du vôtre, hein, bien évidemment, mais des autres qui sont à ses pieds, enfin qui font complètement allégeance à Sarkozy. Donc, quand vous dites qu'il y a personne en face de lui, ben on comprend bien qu'il y a personne en face de lui.
Selon le Canard enchaîné, Jean-Pierre Elkabbach, directeur d'Europe 1, consulte Nicolas Sarkozy quand il doit recruter un nouveau journaliste.
Après le Flash Info, 30 minutes de musique non-stop.
Allô, Nicolas ?
Oui, Jean-Pierre ?
Je me disais pour la musique, là. Je passe plutôt Whitney Houston ou Maria Carey ?
Bob-Olivien.
D'accord. Très bien, Bob-Olivien. Je vais le passer.
Oui, mais c'est non seulement parce que, alors, il a en effet des amis parmi les grands actionnaires, hein, c'est-à-dire Martin Bouygues, Arnaud Lagardère, dont il dit qu'il est son frère. Il a ce genre de d'amitié là. Il a à un deuxième niveau une très grande proximité. Avec
enfin, vous citez aussi Carl Zéro, Nicolas Bétou,
oui, c'est le deuxième niveau. Mais c'est parce qu'il y a
Patrick
trois niveaux.
Patrick Buisson, voilà, c'est des amis, oui, oui. Ça, c'est les conseillers.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a trois niveaux. Il y a le niveau des actionnaires, des gens de pouvoir, qui ont vraiment le pouvoir dans les médias. Il y a le niveau de ce que j'appelle les médiacrates, c'est-à-dire les gens, je sais pas, Jean-Marie Colombani du Monde, Carl Zéro, ce que vous avez dit. Et puis, vous avez, dernier lieu, ce que j'appelle la caravane, c'est-à-dire les journalistes qui suivent Sarkozy au quotidien. Mmh. Et ceux-là, il les cajonne, il les prend par... Alors ça, c'est très spécifique à Sarkozy, c'est-à-dire il les prend par la main, il leur dit « Elle est pas belle la vie », il leur demande des nouvelles de leur gosse, de leur femme, etc. etc. Et tout ce dispositif-là est quand même assez sophistiqué et assez singulier, finalement, à Sarkozy.
Allô, Nicolas ?
Oui, Jean-Pierre ?
Je fais un poulet, là, pour un repas de famille. J'invite plutôt mon frère ou ma belle-sœur à manger ?
Non, invite Bob-Olivien.
Très bien.
Une entreprise de séduction qui est de séduction des journalistes. Et non seulement amis de leur patron, ça peut toujours servir quand même, dans l'histoire de Genestar, enfin de la une de Paris Match sur Cécilia, ça sert quand même d'avoir comme patron Lagardère, mais séducteur des journalistes.
On l'a vu dans ce qu'a sorti le Canard enchaîné, là, votre journal, cette semaine, avec le meeting, le grand meeting, oui, le grand sacre de Sarkozy, 110 000, 120 000 personnes annoncées, toute la journée, on se succède à la tribune pour dire, savez-vous que nous sommes maintenant 60 000 et 80 000 et 100 000. En fait, ce que dit le Canard, c'est qu'au maximum, il y avait 25 000 personnes.
Eh oui, ben, il suffit de regarder.
Je sais bien que la porte de Versailles n'est pas la muraille de Chine, mais franchement, l'ambiance y est bien plus sympathique et nous sommes presque aussi nombreux que les Chinois de Pékin.
Il y a eu des centaines, des dizaines de milliers de personnes, peut-être 100 000 personnes. Bon.
Voilà, il suffit de regarder, mais c'est pas tellement repris, ça. C'est quand même assez gros. Passer de 25 000 à 110 ou 120 000, c'est quand même...
Oui, mais ça, on peut faire le même constat, par exemple, sur la délinquance. Quand Sarkozy fait son bilan de ses 5 années de ministre de l'Intérieur, il met en avant les chiffres qui l'arrangent. Et donc, regardez, grâce à moi, la délinquance a baissé de 20%, etc. Mais quand on regarde, Alors déjà 20%, on se dit c'est pas terrible pour quelqu'un qui nous a fait un numéro pendant 5 ans, qui est allé dans les banlieues, visiter les commissariats, décerner des médailles, réconforter des victimes, qui nous a fait tout un baratin du genre pas un centimètre carré de la République ne sera protégé par mes flics. Voir que ça a baissé que de 20%, c'est pas terrible. Et après, quand on regarde le chiffre quand même qui tue, c'est le fait que les violences aux personnes ont augmenté de 14%. 14% en 5 ans. Et les violences aux personnes, c'est le seul chiffre qu'on peut pas trafiquer. Les autres, c'est des chiffres, dans les commissariats, on peut très bien s'arranger pour une plainte, ne pas la faire suivre en justice, etc. Et donc, ne pas la comptabiliser. Et donc, il y a quand même ce truc accablant qui est que ce type qui prétend sans cesse au nom de l'efficacité, moi je dis ce que je fais ce que je dis, etc., dont le travail a été pendant 5 ans de lutter contre l'insécurité, etc., le bilan, c'est 14% de violence en plus. Bon, est-ce que ça fait scandale? Non, tout le monde a gobé sa présentation des chiffres, qui est une présentation biaisée, et ça c'est du grand art de démagogie, quoi. C'est de présenter le bilan, d'habiller le bilan de telle manière à ce que finalement personne... Il a quand même fait les premières émeutes en France depuis 30 ans, c'est quand même lui qui les a déclenchées.
Depuis 2002, ma détermination, vous le savez, a été totale. J'ai fait de la sécurité la priorité absolue de mon action ministérielle. J'ai voulu rompre avec la résignation et avec le renoncement. Alors les résultats sont là. Pour la 4e année consécutive, la délinquance a reculé en France en 2006. Cela veut dire que depuis 2002, 1 153 000 victimes ont été épargnées. La sécurité a progressé, la peur a reculé.
20 novembre dernier, près de 9 millions de téléspectateurs regardent Nicolas Sarkozy, mais personne ne relève cette petite phrase.
J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure.
Personne, sauf un journaliste du Monde. Mercredi dernier, le démenti tombe et les chiffres sont durs pour Sarkozy. L'an dernier, la police des polices a été saisie de 9% de cas de dérapage en plus qu'en 2002. Augmentation également de 9% des violences policières enregistrées et plus 22% de sanctions contre les policiers.
D'accord avec ça, Philippe Cohen?
Oui, je trouve même une chose, une anecdote que je trouve très significative de la manière dont Nicolas Sarkozy gère sa communication, c'est-à-dire une maîtrise qui se veut absolue de ce qu'on appelle l'agenda médiatique. C'est un peu inspiré des méthodes de Blair et de Clinton. On est au moment où il va saluer de manière assez ridicule, d'ailleurs probablement en montant sur un escabeau, Bush à Washington.
Faut rappeler que Bush mesure 1m83.
Voilà, et donc sur les photos...
Et Sarkozy est plus grand.
Sarkozy était quasiment plus grand sur
les
photos.
Il est français, c'est normal.
Donc il y a cet épisode un peu ridicule, et puis dans l'avion, l'équipe apprend que il y a cette lettre publiée par Le Monde du préfet de Seine-Saint-Denis indiquant que ça va de mal en pis dans le département. Il y a en même temps cette histoire de CRS qui se font tabasser au Tarteret, et donc l'équipe de Sarkozy sent que le bilan du ministère de l'Intérieur va venir sur le devant de la table. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se réunissent et ils élaborent...
Ils se réunissent, qui se réunissent?
La petite équipe qui gère, dans l'avion d'ailleurs, qui est autour de Sarkozy, et à ce moment-là, ils décident de lancer ce qu'ils appellent un missile antimissile. Quel est ce missile antimissile? Ils disent, voilà, au lieu de répondre sur ces choses-là, on va attaquer les juges.
Les magistrats en Seine-Saint-Denis, certains d'entre eux, au tribunal pour enfants, ont renoncé devant la violence.
Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout le monde tombe dans le panneau, c'est-à-dire que la gauche, les juges répondent, vous savez, ils lancent l'idée, les juges sont trop laxistes et c'est pour ça que tout ça arrive. Bon, donc du coup, ça se focalise sur la discussion, c'est est-ce que les juges sont laxistes ou pas laxistes? Évidemment, la gauche, les juges tombent dans le panneau et le débat vient là-dessus. Sarkozy fait commander 2 sondages pour la fin de la semaine sur le thème des juges, et les 2 sondages... c'est-à-dire qui sont publiés l'un par Le Parisien, l'autre par le Figaro, disent 65% des Français approuvent Nicolas Sarkozy quand il dit que les juges sont trop laxistes. Et ça, c'est exactement ça, la communication Sarkozy. C'est très subtil, c'est-à-dire, vous voyez, contre-missile, hop, on déplace le débat, et le débat vient sur la question des juges, et comme ça, on occulte complètement le bilan de Sarkozy au ministère de l'Intérieur.
Mais ça c'est le coup de la provoque. Il avance quand même, et c'est quand même repris à Le Pen, ça. C'est quand même... Le Pen était très content de dire qu'il avance à coup de scandale et de provoque, il a fait ça toute sa carrière, et le coup de la provoque à répétition, qui capte l'attention des médias, qui déplace l'attention sur ce que lui veut montrer, ça c'est quand même une vieille ficelle dont il a usé pendant 5 ans.
Oui, mais qui repose aussi sur excusez-moi, la passivité ou la naïveté ou la complaisance des médias, parce que normalement, ça peut se décrypter. La preuve, c'est qu'on y arrive, hein, après un petit peu de temps après.
Alors, vous dites qu'il emploie des méthodes subtiles, etc. Jean-Luc Porquet a un chapitre où il parle de la com. Je voudrais bien qu'on en parle un peu plus longuement de sa com, ses techniques de com, comment il se procède, et vous le comparez à Berlusconi.
La ressemblance, c'est que Berlusconi, il a conquis le pouvoir en 2001. C'était la même méthode que Sarkozy, c'est-à-dire un déluge de com. C'est-à-dire tout à coup, il est sur toutes les chaînes de télé, on le voit partout, on l'entend partout. Je crois d'un Sarkozy, je crois que c'est 600 ou 700 passages par an à la télé, hein, quand même. Bon, c'est, il y a comme ça. Sarkozy dit mon système, mon seul système, c'est l'omniprésence médiatique. Et Berlusconi, on s'aperçoit que c'est la même chose. Tout à coup, il intervient sans arrêt, on le trouve dans toutes les émissions, il se fait inviter partout. Évidemment, c'est plus facile pour lui parce qu'il est propriétaire, mais bon, le principe est le même. Et c'est une espèce de bourrage de crâne permanent, avec des idées, quelques idées simples, 5 ou 6 idées simples, qu'il a fait travailler par son équipe de com, notamment le programme de son parti, Forza Italia, a été préparé par une boîte de publicité, qui est avec des sondeurs, qui passaient des coups de fil tous les jours à 500 Italiens, en disant, est-ce que vous pensez que, finalement, si on baissait un peu les impôts, ça vous plairait? Oui, hop, on met ça au programme. Et après, on va vendre ça. C'est un côté VRP, côté représentant.
Mais ça, c'est la technique Sarkozy aussi.
C'est exactement la même. Ça m'a vraiment frappé, quoi. La ressemblance avec cette omniprésence et ce fait d'occuper le terrain, d'occuper l'agenda, d'être là partout.
Philippe Cohen.
Oui, moi, je dois dire que quand j'ai commencé l'enquête sur Sarkozy, j'étais persuadé que je voulais m'engager contre Sarkozy parce que pour moi, il représentait un homme politique qui était d'abord atlantiste, qui était communautariste.
C'est pas un crime contre l'humanité, ça, c'est d'être atlantiste.
Non, mais ce que je veux dire, j'avais de l'antipathie politique, disons, pour cette raison-là. Et au bout du compte, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Cet homme politique n'a aucune conviction. Son seul objectif, c'est de répondre en termes de demande. Voilà. Lui, il considère qu'il fait une offre politique, et donc il faut que cette offre soit adéquate avec la demande du peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a compris que Sarko l'Américain, avec Sarko l'Américain, il ferait pas plus que Madelin, c'est-à-dire 5%. Donc, tout d'un coup, il est devenu très patriote, très français, très gaulliste, etc., etc. Bon.
Et ça s'appelle, lui, il doit appeler ça du pragmatisme, hein.
Voilà, c'est ça.
Friend journalist.
Bah oui.
Called me Sarkozy the American.
Trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons. Oh, trop d'impôts, trop de complots. Oh, si je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'il veut aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Sans critiquer notre politique, bon sens, ça craint, trop de gens se plaignent de nos politiciens, qui se tuent la vie tous les jours comme des chiens, à se préoccuper du bien-être de tous les citoyens. La politique appartient à celui qui veut la paix, et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité, ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots. Aussi, je voudrais que les gens reprennent vie. Que
il nous faut décider d'un programme d'action innovant, courageux, ambitieux. Cela suppose, je n'hésite pas à le dire, un tournant majeur dans nos politiques économiques et sociales. Il n'y a pas de fatalité.
Alors, ce que vous dites aussi, Jean-Luc Porquet, c'est que il a son, quand même un ministère entier avec lui là pour l'instant, oui. Et pas n'importe lequel, avec toutes les données, toutes les indications, les moyens de tout savoir et de sur tout le monde d'une façon formidable. Et puis il a cette équipe autour de lui. Vous dites qu'il fait au moins un sondage par jour. Alors il y en a qui sont publiés, il y en a qui ne le sont pas.
Oui, il y a ce qu'ils appellent les sondages Cali, qui sont des petits sondages.
C'est plus ça qu'aujourd'hui qui est utilisé. Hein, c'est plus intéressant. En fait, il s'agit de on réunit des Français autour de la table. Souvent, d'ailleurs, ils le font maintenant dans les régions. Ils sophistiquent les choses. Par exemple, je me suis laissé dire que la campagne de meeting qui était organisée par Sarkozy dans les villes moyennes, c'est-à-dire non pas Lyon, Montpellier, etc., mais plutôt, vous voyez, Nîmes, Béziers, enfin, vous voyez, ce genre de villes moyennes, c'était plutôt conçu dans les coins où Sarkozy était en mauvaise posture sur le plan électoral, et avec des tables réunissant des gens du coin pour avoir, si vous voulez, la perception qu'ils ont. Il travaille beaucoup et il a un budget, alors dont on sait, moi, ce que j'aimerais bien qu'on arrive un jour à déterminer, à distinguer.
Oui, ça coûte
c'est
très
le
cher,
budget de communication de Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur. Donc là, normalement, c'est pour le bien commun. Et puis, le budget de l'UMP. En tout cas, ce que je me suis laissé dire, c'est que c'est de très loin le plus gros client des sondages politiques depuis trois ans en France, auprès de la plupart des instituts, parce que bon bah, il les arrose tous, hein, je veux dire.
Et ce qui est terrible, c'est que bon, les sondages lui servent à faire son programme. Par exemple, son opposition à l'entrée de la Turquie en Europe, c'est parce que il s'est aperçu que dans les sondages, eh ben, une grande partie des sympathisants UMP sont contre, et que donc leur vendre ça, c'était il fallait arrêter. Et voilà, donc il s'est déterminé à partir d'un sondage.
Je veux vous le dire comme je le pense. La place de la Turquie n'est pas à l'intérieur de l'Union européenne.
Alors, ce que vous dites aussi, vous avez tout un chapitre, Borquet, Jean-Luc Borquet, sur la technique de la peur, enfin sur la technique de la sécurité. C'est-à-dire, c'est la technique de c'est terrible, c'est une horreur, etc. Mais je suis là pour vous protéger. Ça a déjà été utilisé en 2002, et ça a donné les résultats qu'on connaît.
Oui, mais justement, c'est lui qui a lancé ça en 2002. C'est vrai que ce que dit Philippe Cohen sur l'amnésie, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Mais dès l'élection de Chirac, dès la semaine qui suit, Sarkozy va sur le terrain, je sais plus où, à Strasbourg, faire une opération de com à grand spectacle, lance le flashball. Il s'agit de gagner les législatives. Et donc il continue sur l'insécurité, il martèle là-dessus, avec des phrases terribles, la France a peur, il n'y a pas un village, pas un coin où l'insouciance ne se soit envolée. Enfin, il fait un descriptif apocalyptique de ce qu'est la France, il fait ça, il attise la peur, et après évidemment c'est toujours des techniques très simples. Et après le deuxième truc, c'est vous avez peur, mais attendez, moi je suis là et je vais vous réconforter et vous protéger.
Les Français sont rassurés, je dis bien rassurés, quand ils nous voient capables de dialoguer avec des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous.
Oui, moi, juste une remarque, je suis d'accord à cette réserve près que ça peut d'autant plus marcher que en face, il y a, à mon sens, de la part de la gauche, une grande tradition de dénégation par rapport à ces problèmes.
Ah oui, il y a le contexte, évidemment.
Et ça compte beaucoup. Et c'est vrai, la remarque que vous faites, en revanche, tout à fait juste sur le fait que aujourd'hui, bah justement, à mon avis, ce serait à la gauche de dire, bah alors justement, l'insécurité maintenant, voilà. Discutons-en aujourd'hui sur la base du bilan de Sarkozy.
Oui, parce que je pense que les auditeurs qui vous écoutent là tous les deux depuis le début se disent, mais quand est-ce qu'ils vont parler des autres? Est-ce que la technique et la stratégie de Ségolène Royal est si différente de celle de Sarkozy, Philippe Cohen?
À vrai dire, la bande dessinée, même si elle le fait rire, elle traduit, notamment on essayait de faire passer cette idée-là à la fin, elle traduit aussi une inquiétude sur l'apparition d'un nouveau type d'homme politique que me paraît en effet incarner Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que je me suis intéressé à son cas, mais que d'une certaine manière rejoint de plus en plus Ségolène Royal, parce que il y a beaucoup de ressemblances, si vous voulez, sur les manières de faire, sur et ça, il y a certaines ressemblances qui sont troublantes. Par exemple, bon, c'est à des niveaux techniques de communication, par exemple le fait que de choisir un photographe à louer, alors chez Nicolas c'est Élodie Grégoire, donc il fait toutes les photos un peu intimistes de Sarkozy, et je crois que du coup Ségolène a choisi aussi d'avoir une espèce de photographe intimiste qui seul est habilité, je sais pas, à rentrer dans la chambre d'hôtel ou à faire ceci ou à faire cela. Bon, de la même manière, les caméras, il y a des prestataires spéciaux maintenant pour l'UMP qui font les images des meetings. Quand on voit le meeting de Sarkozy à la télévision l'autre jour, il parle de Chaban-Delmas. À ce moment-là, la caméra se focalise sur le visage de Madame Chaban-Delmas, qui est effectivement au bord des larmes. Et donc, ça crédibilise, ça donne l'émotion, etc. Si c'est une chaîne qui passe les images, normalement, le réalisateur réfléchit. Il dit, est-ce que je vais montrer cette image-là ou est-ce que je vais montrer la dame trois rangs plus loin qui se gratte le nez ou qui baille? Bon, ça n'a pas le même sens, si vous voulez.
Je crois qu'il a quand même beaucoup d'avance, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dimanche, lui, il est en train de faire son discours d'investiture, là, il y a les fameuses soi-disant 100 000 personnes qui sont 25 000, toute la presse, etc. Bon, opération de com' formidable, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va caresser trois brebis. Elle a du retard, quoi.
D'accord, mais sur le fond, sur le fond, il y a quand même une autre chose préoccupante, c'est le refus de Ségolène, ou la manière dont elle repousse, on a l'impression presque indéfiniment, le contenu, le programme, les propositions, les réformes, sous le prétexte du système participatif. Hein, donc c'est la démocratie participative. Quelle est la différence entre démocratie participative telle qu'elle est organisée là, et répondre à la demande, comme on l'a dit pour Sarkozy? Ça, c'est le vrai problème. Est-ce que vraiment il y a des méthodes différentes, ou est-ce que c'est dans les deux cas, se mettre au niveau de la demande? Moi, je trouve que c'est une vraie question qu'on devrait débattre dans la campagne.
Monsieur Chirac, vous verriez bien une femme vous succéder?
Une gonzesse.
Ce Chirac.
Ah, le con.
Alors, on continue. Je rappelle qu'on est avec Philippe Cohen, le co-auteur de la face cachée de Sarkozy, une bande dessinée qui a un grand succès, et puis le bouquin de Jean-Luc Porquet qui sort, Le Petit Démagogue. Il faut, si vous voulez devenir démagogue, absolument vous procurer ce bouquin. C'est pas très cher, vous pouvez être un futur démagogue assez modeste, assez pauvre. C'est pas mal d'avoir été pauvre, hein, pour devenir un bon démagogue. Enfin, l'un et l'autre, vous indiquez bien que, en tout cas, Sarkozy a été malheureux étant petit.
Oui, mais il n'a pas été pauvre. Ça, c'est lui qui a laissé croire qu'il était. Ça, c'est vraiment une imposture. Je veux dire, il a été pauvre. Il a été humilié dans sa tête. Parce qu'il s'est inventé ce malheur, que peut-être il a d'ailleurs ressenti, qu'il était d'une famille divorcée et que, à cette époque, ça se portait assez mal à Neuilly. Ça se portait assez mal à Neuilly, pas à Argenteuil. Et il n'était pas dans un HLM, il était dans une superbe maison. Moi, j'ai été voir la rue, c'est une des rues où il y a les maisons les plus huppées de Paris, avec maison de campagne. Donc il a vu une vie, en réalité, extrêmement confortable.
Mais il savait qu'il y a une imposture. Le truc qu'il répète sans arrêt, c'est rien ne m'a jamais été donné, il a fait. Mais si, beaucoup de choses lui ont été données. Il est né dans les beaux quartiers, il vient d'une famille aisée,
des écoles privées.
J'ai du mérite, j'en ai bavé.
Oui, c'est comme Johnny, quoi. Je suis né dans la rue. Bon,
quand même. Et puis, il y a aussi tout le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi. J'essaye de faire le bien, j'essaye de dire une chose, et paf, il me tombe sur le dos.
Oui, il a quand même été. Il a quand même Charles Pasqual a quand même pris sous son aile. Chirac l'a quand même pris sous son aile. Enfin, bon, ce type a été aidé, propulsé, couvé par quand même tout ce que la droite compte de grands hommes, si on peut dire.
Oui. Nicolas, tu as 20 ans, tu es étudiant à Nanterre. Pourquoi es-tu à l'UDR?
Oui, bien, je suis à l'UDR, j'ai pas connu 1940, j'ai pas connu 1958, j'ai même pas connu 1968. Et pourtant, je suis à l'UDR. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on m'a dit que je voulais participer à l'effort de construction de la société de demain, parce que j'estimais que nous ayant donné le droit de vote, nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société où nous allons vivre. Et puis à l'UDR, on m'a pas désigné un ennemi tout fait, on ne m'a pas dit la vérité est une, et c'est nous qui l'avons. On m'a simplement dit que pour construire cette société de demain, il fallait l'effort de tous et la participation de tous. Voilà pourquoi je suis UDR.
Dans tout ça, est-ce que l'opinion marche aussi bien qu'il le suppose ou aussi bien qu'il y paraît? Parce que vous regardez l'un et l'autre, vous regardez le personnage Sarkozy, parce qu'effectivement, pour Cohen et un peu pour vous aussi, c'est un personnage, hein. Porquet dit voilà, c'est un formidable personnage de feuilleton, un feuilleton quotidien, quoi.
Oui,
une espèce de qui s'agite dans des aventures successives, intrépides et captivantes. Et puis pour Cohen, c'est un bon personnage de bande dessinée. Il faudrait que ça s'arrête là, d'après vous, hein.
Oui.
Voilà,
ouais, mais c'est pas là. Sûr.
Non, ça marche, c'est pour lui ça marche, puisque de toute façon je crois qu'il était à je sais plus combien 19% de popularité il y a quelques années, maintenant il dépassait 63%. Enfin, les sondages auxquels il croit dur comme fer montrent que ça marche. C'est-à-dire qu'il a réussi à éliminer tous ses petits copains de droite, de Villepin et compagnie, et il est devenu l'homme le plus populaire de la droite, en tout cas. Donc ses techniques lui ont permis, oui, d'évincer les concurrents et de se présenter comme le futur président de la République.
Ouais, moi je dirais qu'il y a un double mouvement, en fait, ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'un côté, en effet, très fort, à la base, c'est-à-dire d'adhésion, c'est-à-dire de gens, vous savez, des gens qui triment dur, artisans, bouchers, pâtissiers, les entrepreneurs, les gens de province, beaucoup de gens comme ça qui sont, qui disent oui avec lui, qui y croient, quoi. Sarkozy, ça va changer la France. Il va réussir, etc. Et qui vraiment ont un soutien très fort. Et puis, vous avez de l'autre côté, un mouvement de rejet très fort et d'inquiétude très forte. Alors, je trouve que si, par hypothèse, il gagnait cette élection, je pense que le pays serait encore plus clivé et de manière encore plus radicale qu'avant. C'est-à-dire qu'on aurait une situation très très difficile à gérer, me semble-t-il.
La France, c'est celle des travailleurs. Le mot ne m'arrache pas la bouche. Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum et qui ne se reconnaissent pas dans la gauche immobile, qui ne respecte pas le travail. Eh bien, je veux leur tendre la main à ces travailleurs en leur disant « Nous allons revaloriser le travail, car nous croyons au travail ».
Mais je reviens quand même là sur cette question. Est-ce que les Français sont aussi... aussi con que qu'il le croit, qu'il le suit. Enfin, on a vu avec le traité de constitution européenne le 29 mai, avec ce nom quand même très clair de la part des Français. Est-ce que c'est vraiment une masse aussi malléable qu'il le suppose, ou bien est-ce qu'il joue sur la partie la plus facilement malléable?
Bah, il y a des choses encourageantes. Par exemple, Berlusconi, quand il était premier ministre 2001 à 2006, quand il s'est représenté en 2006, il y avait quasiment tous les médias avec lui, toute la machine avec lui, et il a perdu. Il suffit pas d'avoir une force de frappe de com terrible pour gagner. Donc bon, puis en plus, quand on regarde dans l'histoire, la plupart des démagogues ont généralement ça finit mal en général, les démagogues. Donc ça, c'est quand même rassurant. Cléon est mort honteusement. Boulanger s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse. Berlusconi s'est fait évincer du pouvoir. Savonarole s'est fait brûler vif. Enfin bon,
Le Pen se porte très bien.
Le Pen. En suspense, on sait pas ce
qui se passe. Jusque-là, ça va.
Ouais. Non, mais et en même temps, il y a des trucs dans le discours de Sarkozy qui, pour moi, qui fonctionnent pas. Par exemple, tout son fameux truc sur le travail, genre si vous levez tôt pour gagner plus d'argent, ça peut marcher, comme dit Philippe Cohen, sur les petits artisans, etc. Mais ça marche pas sur le chômeur. Le chômeur qui se lève tôt, qui cherche du boulot, qui n'en trouve pas, ce genre de promesse, moi je vous promets une France du travail, une France pour celui qui se lève tôt, qui va travailler dur, il y a quand même une arnaque profonde qui fait que le discours ne fonctionne pas toujours.
En plus, moi je pense qu'en réalité, Sarkozy est un faux dur. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi dans la BD, c'est-à-dire que en réalité, chaque fois qu'il y a eu des mouvements... populaires, les mouvements sociaux comme le CPE ou plus loin dans le temps le CIP de Balladur, ça a été le premier à dire faut arrêter, faut pas affronter, faut reculer, etc. Donc il y a un côté, si vous voulez, faux dur en fait, et je suis pas certain que il soit même dans l'exercice du pouvoir quoi que ce soit à voir avec ce qu'il dit aujourd'hui. Hein.
Le président de la République, en demandant que la disposition de la loi consacrée au CPE ne soit pas appliquée en l'attente d'un nouveau texte législatif qui la modifierait. Je salue cette décision.
Le deuxième handicap, si on revient au parallèle avec le traité constitutionnel et la campagne, c'est que, en effet, vous savez, quand Sarkozy est revenu de Corse dernièrement, comme d'habitude, il a pris quelques journalistes dans son Falcon et il leur a dit, vous savez, les Français veulent le match. Alors, le match Sarko-Sego. Hein. Bon, alors, et immédiatement, tous les médias, d'ailleurs, comme à l'unisson, mettent en scène le match Sarko-Sego, comme si on devait faire l'économie du premier tour. Bon, je crois que ça énerve profondément les Français, et que ça, j'espère, qu'il peut y avoir des grosses surprises là-dessus. Alors, une des grosses surprises, ça peut être qu'à nouveau, il y ait Le Pen, mais... Je pense qu'il y a un rejet de si on continue à écraser, regardez les choix qui sont faits par exemple par TF1 sur 40% pour les deux, après avec des dosages comme ça, a priori fondés uniquement sur les sondages. Je pense que tout ça énerve les gens et que en général les Français jusqu'à présent ils vont là où on leur dit de pas aller. Moi, c'est ce que j'ai pu constater, donc j'espère que cette fois-ci, ce sera comme les autres.
Ça, c'est une note d'espoir. Jean-Luc.
Oui, non, bah, pareil, oui, il faut voir, toutes les surprises sont bonnes à prendre, enfin, pas toutes, mais certaines peuvent.
Celle-là, elle serait bien, quand même. Merci à tous les deux. Sarko, oh, oh, Sarko, à l'Élysée, oh, Sarko, oh, oh, lance les drapeaux, Sarko, oh, oh, notre président. Voilà, merci à Jean-Luc Porquet et Philippe Cohen, le livre de Jean-Luc Porquet. C'est Le Petit Démagogue et celui de Philippe Cohen, la bande dessinée, c'est La Face Cachée de Sarkozy. À signaler également, c'est Charlotte Perry qui vous conseille, le festival du cinéma social militant Bobine Sociale qui se déroule en ce moment dans le 20e arrondissement de Paris jusqu'au 28 janvier. Plus d'informations, vous pouvez visiter le site de Bobine Sociale à Pavé Emmanuel. Ah d'accord. www.pavéetmanivelle.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter de toute façon .com à la rubrique émission là-bas si j'y suis et ou bien aussi sur le site là-bas.org là-bas.org où jeudi il y aura la 1000e émission archivée par notre ami auditeur, par Franck. Ce sera jeudi, voilà, c'est quand même une grande fidélité à la technique aujourd'hui. Christophe Papon et Arnaud Caillès et Yann Chouquet et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Christophe Fimbert se tient immobile près du répondeur jusqu'à demain au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 dans l'attente de vos messages.